Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
They are nasty. They are brutal. And they are just downright.
Ils sont mauvais, ils sont brutaux et ce sont les derniers des sauvages parce qu'ils considèrent les noirs comme des chiens. Ce sont des brutes et ce que les policiers ont fait subir aux gens de couleur, c'est uniquement de la brutalité policière à grande échelle. Nous, étudiants noirs, nous ne sommes pas du tout satisfaits et nous continuerons à ne pas l'être jusqu'à ce que nous ayons des avantages égaux, pas seulement dans le domaine de l'éducation et du travail, mais dans tous les domaines.
This little song that I'm saying about people you know is true. If you black and gotta work for a living, this is what they will say to you. They say if you's white, she's all right. If you's brown, stick around. But if you's black, oh brother, get back, get back, get back. I was in a place one night, they was all having fun. They was all buying beer and wine, but they would not sell me none. They said, if you was white, you'd be all right. If you was brown, stick around. But as you was black, brother, get back, get back, get back.
Quand le bluesman américain Big Bill Bronzy évoque à Paris, à la salle Playel en 1952, la dure réalité de la population noire dans le sud des États-Unis, il n'imagine sûrement pas que ces mots épouseront quelques années plus tard la fronde de la communauté africaine-américaine. Dans ce cinquième et dernier épisode de notre série consacrée à la musique des droits civiques, nous allons tenter de regarder davantage vers l'avenir. Mais pour envisager un futur possible, il faut connaître son passé et en tirer les leçons. Nous nous sommes donc rendus chez Pani Mayfield à Clarksdale dans le Mississippi. Cette journaliste et photographe de renom est la mémoire du peuple blues. Son dernier ouvrage, Live from the Mississippi Delta, réunit quelques 200 photos inédites de personnalités ayant accompagné l'épopée des musiques noires. Elle tenait à nous présenter ce livre édifiant, une part de son histoire.
The book talks about the Mississippi Delta and it's divided in a number of chapters, but
ce livre évoque le delta du Mississippi. Il est divisé en plusieurs chapitres. Évidemment, ma ville natale, Tutwiler, en est l'introduction, d'autant qu'il s'agit du lieu de naissance du blues. Robert Plant, le chanteur de Led Zeppelin, apparaît sur cette première photo car il était là pour inaugurer la plaque commémorative à Tutwiler et rencontrer quelques vétérans de l'histoire du blues. Il a aussi financé ce projet mémoriel consacré au blues. Il ne voulait en aucun cas faire sa propre publicité. Il voulait honorer le patrimoine noir américain. Le livre s'ouvre donc sur ma ville natale. Puis je m'attarde sur les paysages du Mississippi que j'ai toujours adoré. Certains ne seront pas d'accord avec moi, mais cette région isolée du sud des États-Unis, où vivaient des milliers de gens au début du XXe siècle, a sûrement nourri l'élan créatif des musiciens locaux. Certaines de mes photos montrent cela. Elles montrent l'histoire d'hommes et de femmes qui ont vécu ici. Chacun d'eux a une valeur particulière à mes yeux.
And then I have a section on what I call homegrown icons, which.
Il y a aussi dans ce livre tout un chapitre consacré aux héros méconnus, tous ceux qui ont dessiné les contours du patrimoine sonore. Je pense notamment à Early Wright, qui fut un célèbre animateur de radio sur W Rocks pendant 52 ans. Il y a aussi Wade Walton, que l'on appelait le Barbier Blues, et qui a d'ailleurs enregistré certains de ses disques en Europe dans les années 50. Et je n'oublie pas Johnny Billington, qui a appris à des générations de musiciens comment jouer le blues. Il y a aussi dans ce livre Zeratliff Hill, qui s'est occupé du Riverside Hotel pendant des décennies, et qui a accueilli un nombre incalculable de musiciens dans son établissement, dont Sonny Boy Williamson, Ike Turner, Jackie Brenston, Bessie Smith et quelques autres. Elle avait toujours un tas d'anecdotes à raconter.
Est-ce que vous voyez ce livre comme un témoignage social, un écho du passé, un reflet de la culture sudiste?
All of the above. It's just who we are here.
Tout cela à la fois. Ce livre présente ce que nous sommes. Nous avons beaucoup de chance d'être les témoins et acteurs de cet héritage culturel majeur. Notre patrimoine musical est exceptionnel car il a une histoire très ancienne. Avant même ma naissance, certains hommes d'église encourageaient les enfants afro-américains à faire de la musique. Ils leur procuraient des instruments et c'est ainsi que des groupes se sont formés. Par exemple, Melvin Taylor, qui était en charge du Sunflower Blues Festival pendant plusieurs années, avait son propre club. Et lorsqu'on lui demandait quel souvenir il gardait de son rôle de trompettiste dans l'orchestre de Ike Turner, il répondait « C'est Ike Turner qui jouait avec nous ». Ike Turner n'était qu'un enfant quand Melvin Taylor l'a encouragé à monter sur scène. On voyait beaucoup d'orchestres blues dans les établissements scolaires à l'époque. Par conséquent, la tradition blues sudiste est ancestrale. J'ai souvent discuté avec certains pionniers du blues comme Honey Boy Edwards, qui me racontait sa rencontre avec le musicologue Alan Lomax. Il y avait un réel intérêt pour le blues à l'époque. Il y avait des clubs ouverts à tous les coins de rue. Vous pouviez croiser Muddy Waters quotidiennement. Tout se passait ici, dans le sud, et c'est toujours le cas aujourd'hui.
Parlons un petit peu du mouvement des droits civiques. Vous nous disiez tout à l'heure que vous avez beaucoup d'anecdotes avec des musiciens qui ont marqué l'histoire du blues. Est-ce que vous étiez suffisamment intime pour qu'ils vous parlent de leur douleur durant les périodes sombres de la ségrégation raciale? Est-ce que vous aviez des confidences de ces musiciens importants?
Oui, je connais bien l'histoire des droits civiques. Et plus les années passent, plus nous avons une perception précise de ce qui s'est passé ici. Je ne suis pas encore allée au musée de Jackson, mais je dois dire qu'il y a aussi eu un mouvement de contestation très important ici, à Clarksdale. En tant que journaliste, j'ai interviewé certains des vétérans afro-américains. Je trouve remarquable la bravoure de tous ces gens. Aaron Henry, qui a été l'un des leaders du mouvement dans cette région, a donné de grands discours. Récemment, j'ai assisté à des conférences, durant lesquelles différents intervenants proposaient des lectures de ses prêches ou de ses sermons. J'ai réalisé à quel point il était dangereux de s'exprimer à l'époque. Zee Ratcliffe Hill, la propriétaire du Riverside Hotel, me racontait qu'il y avait régulièrement des couvre-feux à Clarksdale dans les années 60. Il fallait impérativement rentrer chez soi avant une heure bien précise, sous risque d'être emprisonné ou de ne plus pouvoir rentrer dans la ville. Elle me parlait également d'un club nommé le Harlem's Inn, qui était un lieu de rassemblement pour les Noirs à l'extérieur de la ville quand ils n'avaient plus la possibilité de rentrer chez eux. Beaucoup de musiciens, qui se produisaient à Memphis ou à la Nouvelle-Orléans, se rendaient dans ce lieu où célébrités et anonymes pouvaient partager des moments de complicité jusqu'au bout de la nuit. À cette époque, je ne vivais pas ici, mais je sais que cette région a connu des drames effroyables. C'était une époque difficile dont les Américains, pendant longtemps, n'ont pas voulu parler. Je constate que depuis 10 ou 15 ans, les langues se délient et les Américains osent affronter leurs démons. Quand je prenais des photos, les musiciens ne me parlaient pas de leurs conditions d'hommes noirs. Ils me parlaient de leurs histoires d'amour, d'infidélité, de trahison, de difficultés économiques, mais jamais de la ségrégation raciale. Il préférait me parler de musique.
We talked a lot about music and good time and having a good time.
Well, my mother allowed me. She had to stay out all night long. All alone. Just to stay out all night long. I didn't catch any love. I was boogieing around. When I first came to town, people, I was walking down Hastings Street. Everybody talking about Henry Swing Club. I decided I'd drop in there that night. I got down. I said, yes, people,
They was really having a ball. Yes, I know.
Entendre le blues des Noirs d'Amérique est certes une façon de ressentir leur mal-être, mais il serait injuste de réduire la destinée d'un peuple à une représentation victimaire partielle. Le combat des Africains-Américains se poursuit aujourd'hui sous différentes formes. L'une des manifestations de cette lutte constante pour l'égalité sociale a été l'inauguration en décembre 2017 à Jackson du Musée des droits civiques du Mississippi. Un immense complexe où le récit de 4 siècles d'esclavage et de ségrégation raciale vous submerge tant la mise en perspective est prodigieusement conçue. Nous avons rencontré la directrice de cet édifice imposant, la bouillonnante Pamela Junior.
C'est absolument incroyable d'imaginer que 40 millions de vos auditeurs m'écoutent actuellement. C'est fantastique. Qu'ils viennent tous ici pour découvrir l'histoire des droits civiques dans le Mississippi, car c'est dans cet État qu'a germé la contestation des Noirs. Avant de comprendre le mouvement, il faut comprendre les gens qui l'ont animé.
Quel est l'enjeu finalement de ce musée ?
Je ne pense pas que ce musée soit militant. Cependant, une fois que vous avez visité ce lieu et que vous avez vu sur ces murs le virus du racisme, les mouvements de contestation et la douleur du peuple noir dans le Mississippi, il est temps de réfléchir à la manière d'apaiser les consciences. Nous devons tous œuvrer pour une réconciliation citoyenne. Dans ce cas, nous devons nous poser la seule et unique question : comment avancer ensemble ? C'est ce que je veux imprimer dans l'esprit de nos visiteurs. Je veux que nous devenions, chacun de nous, des porteurs d'espoir. Je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui si je ne prenais pas en compte le sacrifice de mes aînés. Retenez les noms de tous ceux qui nous ont précédés. Je considère qu'une femme comme Fannie Lou Hamer s'est sacrifiée pour que je puisse vous parler et tenir le rôle qui m'est dévolu aujourd'hui. J'espère donc que nos visiteurs, en quittant ce lieu, auront la volonté d'être de meilleurs citoyens.
I have a stake in this place also, so I'm hoping that people go away with a drive to do better.
Au fil de notre visite de ce gigantesque musée, nous avons croisé des élèves et leurs professeurs qui prenaient ensemble conscience de l'impérieuse nécessité de connaître l'histoire d'une nation, les heures glorieuses comme les zones d'ombre. En quoi les artistes ont été essentiels dans le mouvement des droits civiques ?
Ah, there's so many. You know, just recently.
Il y en a tellement qu'il est difficile de vous répondre. Récemment, Hollis Watkins, l'une des figures du mouvement des droits civiques dans le Mississippi, est venue ici. Au même moment, un groupe d'étudiants visitait le musée. Ils se sont approchés de lui et ont commencé à lui poser des questions. Ils se sont tellement bien entendus qu'ils ont fini par chanter des airs gospel ensemble. Les entendre interpréter un hymne comme « This little light of mine » en compagnie de ce grand monsieur me rassurait sur l'engagement progressif de la jeune génération. La musique a représenté un vrai pouvoir durant le mouvement des droits civiques parce qu'elle portait l'espoir et mobilisait les foules. N'oublions pas que les manifestants marchaient la peur au ventre dans les années 60. Mais dès qu'ils se mettaient à chanter, ils retrouvaient la foi et le désir ardent de lutter. Voir des enfants se trémousser, chanter et applaudir à l'écoute de ce répertoire nous enchante. Lorsque nous les voyons réagir, nous avons le sentiment que leurs ancêtres, qui sont morts sur les champs de bataille des droits civiques, communient avec eux par l'esprit. Je nous vois entrer dans la course et capter l'attention de la jeune génération. Je nous vois comme des mentors, car les jeunes ne connaissent pas cette histoire. Une fois qu'ils seront en mesure de la comprendre, ils pourront agir. Mes propres enfants connaissent parfaitement l'épopée du peuple noir, car je n'ai cessé de leur en parler. Ils n'avaient pas d'autre choix que de m'écouter. Eh bien, je note aujourd'hui la singularité de leur comportement. Je vois qu'ils veulent s'engager pour leur communauté. Mon fils aîné travaille actuellement sur un documentaire et n'hésite pas à parler de son projet, à parler du problème racial aux États-Unis. Certes, il est toujours de bon ton de vouloir faire disparaître le racisme, mais avant cela, il faut que nous en parlions tous ensemble. Ce musée est l'espace d'expression idéal pour aborder tous ces sujets. Quoi qu'il ressorte de ces débats, nous devons agir en adultes et reconnaître que cette maladie qui ronge notre société est présente depuis trop longtemps et ne disparaîtra pas en un claquement de doigts.
Merci beaucoup, Pamela Junior.
Thank you. It's been truly a phenomenal time just talking with you. So thank you so much.
This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine.
Cette chanson, This Little Light of Mine, cette petite flamme en moi, a été interprétée par des dizaines d'artistes au fil des décennies. Ce traditionnel gospel est devenu l'un des hymnes du mouvement des droits civiques, pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. En Afrique du Sud, par exemple, cette mélodie donnait du courage aux résistants anti-apartheid. Il est donc logique d'entendre le Soweto Gospel Choir s'approprier ce chant particulièrement palpitant. Alors que nous touchons à la fin de cette série d'émissions commémorant le 50e anniversaire de la disparition de Martin Luther King, nous voulions vous faire entendre le témoignage d'une redoutable militante. Son regard et ses mots choisis nous ont vraiment impressionnés. À bientôt 80 ans, Alice Clark, c'est son nom, garde en elle cette étincelle rebelle qui l'a portée jusqu'au Capitole du Mississippi, où elle fut élue en 1985, soit 20 ans après le soulèvement des Noirs d'Amérique. Depuis, elle siège dans cette assemblée avec la même rage de faire évoluer la société, même si elle reconnaît humblement que les crispations entre blancs et noirs et les tensions sociales actuelles ne facilitent pas sa tâche.
Well, there have been periods of times when things were better.
Je dirais qu'il y a eu des périodes bien plus positives que celles que nous vivons actuellement. Nous parvenions à aller dans la direction que nous avions choisie ensemble. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que nous faisons marche arrière. Nous voilà revenus au point de départ. J'ai le souvenir de mesures politiques conduites collégialement autrefois par des députés noirs et blancs. Nous avions conscience que nous agissions pour la ville et même le pays tout entier. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais soyons justes, il y a toujours des citoyens et des élus blancs de bonne foi qui ne considèrent pas les noirs comme des problèmes dans la société américaine. Si nous parvenons à travailler tous ensemble, les choses s'amélioreront. L'une de mes meilleures amies est une femme blanche et elle a dû affronter le racisme ordinaire quand nous nous baladions ensemble dans les rues de Jackson. Des gens osaient lui dire « Que fait cette femme noire à vos côtés ?» Je me souviendrai longtemps d'une remarque de l'un de ses cousins lors d'obsèques familiales auxquelles elle m'avait conviée. En me regardant, il avait déclaré « Que fait-elle ici ?» Heureusement, mon amie a eu la réponse adéquate. « C'est ma sœur !» Je peux vous dire qu'il n'est pas revenu à la charge. Nous étions vraiment des sœurs, car elle était ma voisine depuis 30 ans. Sa fille voulait qu'elle déménage à Syracuse parce que mon fils y suivait des études. Personnellement, je pense que cette gamine était effrayée à l'idée de se retrouver dans un quartier noir sans amis pour la protéger. Qu'importe, nous étions de très bonnes amies et nous passions des nuits à discuter ensemble. Lorsqu'elle a décidé de quitter Jackson, elle s'est aplatie d'excuses. Elle avait le sentiment de m'abandonner, mais sa fille ne se sentait plus en sécurité dans ce quartier noir de la ville. Heureusement, Il reste encore beaucoup de voisins blancs et noirs capables de lier amitié et de converser ensemble.
Est-ce que la politique a le pouvoir de changer l'état d'esprit des citoyens américains ?
Nous aimerions le penser. Malheureusement, beaucoup de nos concitoyens considèrent que la politique ne change rien à leur vie quotidienne. Ils pensent que leurs dirigeants feront toujours ce qu'ils veulent sans l'aval des électeurs. J'espère sincèrement que les choses évolueront dans le bon sens, car j'ai appris au fil des années que la politique menée dans un pays a des effets progressifs sur la société et l'état d'esprit de la population. Si chacun de nous prenait le temps d'aller voter, vous sentiriez immédiatement la différence. Cela dit, je ne comprends toujours pas comment notre président actuel a pu être élu avec si peu de votants. Et je vais vous dire une chose, je suis convaincue que cet homme ne pensait même pas qu'il allait être élu. Je pense qu'il avait prévu de faire un discours de perdant le jour de son élection. Je pense que Hillary Clinton n'a pas vu le drame qui se jouait. Honnêtement, j'étais moi-même devant la télévision au Capitole avec d'autres femmes politiques et nous nous apprêtions à voir apparaître à l'image la première femme présidente des États-Unis. Nous avons sacrément déchanté. Cependant, il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à convaincre les gens que la politique peut créer le changement.
Politics does make a difference.
L'élection de Donald Trump le 20 janvier 2017 a suscité de très vives réactions. Alice Clark y voit la revanche des Américains les plus réactionnaires après deux mandats de Barack Obama.
A major revenge.
C'est une sacrée revanche. Je dis cela car, quelles que furent ses déclarations, même les plus insensées, les électeurs blancs étaient prêts à voter pour lui. Il était un blanc comme eux, il avait donc forcément raison. N'oublions pas que, pour beaucoup d'entre eux, l'élection d'un président noir à la Maison-Blanche, 8 ans plus tôt, a été un véritable choc, d'autant que ce président noir a été réélu pour un deuxième mandat. La communauté blanche était prête à voter pour n'importe qui pour se débarrasser de ce président noir qui, à leurs yeux, n'était pas à sa place. Le bon candidat devait être nécessairement un homme et un blanc. C'est dans ces moments-là que je réalise que beaucoup de nos concitoyens n'ont pas conscience de l'importance du vote. Nous devons continuer à militer pour que la population prenne conscience qu'elle a son destin en main. Je pense que nous avons totalement mésestimé cet aspect des choses ces dernières années.
And we still have to impress upon our people the importance of voting. And I think that somewhere along the way, we missed some of that. I think that must be what we did.
C'est triste de dire ça parce que justement les Afro-Américains se sont battus pour avoir le droit de vote.
I am still not sure that Trump got elected.
C'est la raison pour laquelle je me demande si Donald Trump a vraiment été élu. J'attends toujours que l'on recompte les bulletins de vote. J'ai vraiment l'impression que l'on nous a floués. En tout cas, j'espère qu'une personnalité suffisamment charismatique fera la différence lors de la prochaine élection. Sinon, nous aurons à faire face à de sérieux problèmes. Évidemment, j'espère qu'une femme se portera candidate et permettra à ce pays de reprendre le bon chemin.
When the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory,
glory, glory.
Oh,
the heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, his spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots be on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up.
One day,
Glory, la réponse de John Legend et du rappeur Common aux dérives racistes d'une société américaine toujours incapable de chercher l'unité 50 ans après l'assassinat de Martin Luther King. Faut-il vraiment qu'un bout de chou de 9 ans, petite fille du pasteur King, harangue la foule à Washington pour que les esprits s'apaisent ? C'est pourtant ce que les télévisions américaines ont retransmis le 24 mars 2018 en direct, suscitant l'admiration, l'émotion, le frisson des manifestants et, espérons-le, un vrai sursaut citoyen.
What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed days, dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.
Quelques notes d'espérance, c'était Louis Armstrong en 1970. C'est sur cette tonalité humaniste inspirée que nous allons nous quitter. Je tiens à remercier ici tous ceux qui ont permis la réalisation de cette série d'émissions spéciales. Et d'abord, Visit Mississippi et Memphis Travel qui nous ont grandement facilité ce périple dans le sud des États-Unis. Merci à Equinoxial et American Airlines pour nous avoir fait traverser l'Atlantique dans les meilleures conditions. Merci à Cécile Pompeani et Pauline Leduc, les voix françaises de nos interlocutrices du jour. Merci à Xavier Bonnet du magazine Rolling Stone pour m'avoir conduit sur les routes du blues, de la soul, du rock'n'roll et du gospel. Et mes applaudissements à Nathalie Laporte pour son investissement enthousiaste tout au long de cette collection de 5 émissions. La semaine prochaine, nous conserverons une part du militantisme légué par Martin Luther King, mais avec le regard actuel d'un artiste nigérian dont le dernier album Black Times est un point levé contre toute discrimination. Nous accueillerons l'un des fils de Fela Anikulapo Kuti, le turbulent Sheun Kuti. D'ici là, profitez du printemps pour sortir et aller voir des concerts, pour commenter l'épopée sur Facebook et Twitter, pour réécouter l'émission sur l'application RFI Pure Radio ou pour célébrer le jazz le 30 avril prochain lors de la 7e journée internationale du jazz instaurée par le pianiste Herbie Hancock sous l'égide de l'UNESCO. 190 pays dans le monde sont partenaires de l'événement et parmi les milliers de rendez-vous jazz annoncés à travers la planète, citons au hasard la venue du Count Basie Orchestra le 30 avril à Limoux, dans le sud de la France, dans le cadre du Limoux Brass Festival. Vous savez tout ? Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.
What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.